Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Un café avec les collègues, un discours du proviseur, c'est la pré-rentrée des profs. Aujourd'hui, un métier de plus en plus souvent choisi comme deuxième carrière. Parole de nouveaux profs dans ce journal. Et avis à ceux que ça intéresse, il manque de professeurs principaux cette année. À la une également, cet échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine, il aurait eu lieu dans la nuit. Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov en ferait partie. Nous serons à Moscou, puis à Washington, où Donald Trump avance ses pions dans la guerre des étoiles en lançant une Space Force, un commandement militaire de l'espace. De la naissance du populisme à la crainte d'une récession mondiale, ça ce sera le sujet de votre interview dans 20 minutes.
Oui, avec l'économiste Daniel Cohen, il participe à un ouvrage collectif sur les origines du populisme sous titre Enquête sur un schisme politique et social, c'est aux éditions du Seuil. Participez évidemment au débat 01 45 24 7000. Réseaux sociaux, applications mobiles d'Inter.
Dans ce journal aussi, la rentrée politique de Xavier Bertrand qui a tout d'un début de campagne. Toujours plus d'opérations en ambulatoire, plus d'une sur deux désormais dans les hôpitaux. Les arbitres face à l'homophobie des supporters de foot. Et puis c'est le débat du moment dans les familles. À quel âge le premier portable? Souvent, c'est à la rentrée en sixième.
France Inter.
Ce matin, ils seront ensemble dans la salle des profs, 870 000 enseignants qui font leur pré-rentrée aujourd'hui. Mais lundi, c'est seuls qu'ils se tiendront devant leur classe, seuls devant une forêt de visages inconnus. Ça n'est pas rien, surtout quand c'est la première fois. 28% des admis au concours l'an dernier viennent d'un tout autre métier, comme Pierre, qu'Alexis Morel a rencontré. Prof d'anglais stagiaire cette année à Paris, reconverti après une carrière dans le privé.
J'étais salarié dans une entreprise, j'étais traducteur. C'était pas très épanouissant. Je me sentais pas forcément valorisé dans ce travail-là. Alors que là, je sais que je fais quelque chose qui est important. C'est clairement pas pour l'argent, mais c'est un métier magnifique. Nous, l'année dernière, on a eu la chance de faire des stages. Et ce qu'on reçoit humainement, c'est assez incroyable, quoi. On est face à des gens, on leur apprend des choses. Pour la plupart, ils sont contents d'apprendre et ils vous le font ressentir. Vous voyez, vous êtes en face d'eux. Ils apprennent quelque chose, ils ont les yeux qui s'illuminent, ils sont tout excités, ils lèvent la main, ils participent. Et ça, franchement, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres métiers où vous recevez tant de bonnes ondes humaines comme ça. Évidemment, il y a des mauvais côtés, il y a des moments difficiles, tous les élèves sont pas faciles. Mais de manière générale, c'est un métier profondément humain et je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres comme ça.
Pierre, enseignant stagiaire pour sa première rentrée, sera-t-il ensuite tenté par un rôle supplémentaire, celui de prof principal? C'est qu'il manque de candidats en cette rentrée, notamment dans les lycées où la réforme du bac et Parcoursup en ont refroidi plus d'un, qui ne se sentent pas à l'aise, Sonia Princet, dans leur nouveau rôle de conseiller d'orientation.
L'an dernier, Andrea, professeur de PS dans un lycée en Bourgogne, était aussi professeur principal d'une classe de seconde. En plus des missions habituelles, elle a dû aider les élèves à choisir leur spécialité. Sans aucune formation, elle s'est sentie démunie.
Je l'ai pas bien vécu, hein, tant devant les élèves que devant les parents aussi, parce que les parents m'ont demandé comment choisir les enseignements de spécialité, pour faire médecine, qu'est-ce qu'il faut choisir, pour faire architecte, qu'est-ce que mon fils doit choisir comme enseignement de spécialité. Moi, j'ai aucune notion dans l'orientation, je savais pas quoi répondre. Alors les conseillères d'orientation au CIO m'ont un petit peu aidée, mais c'était très léger. Et sur une classe de 35 élèves, ça a été très compliqué. Donc là, cette année, quand on m'a demandé ma fiche de vœux, j'ai mis non pour le rôle de professeur principal.
Et ils sont nombreux à jeter l'éponge, en particulier dans les lycées, comme l'a constaté Claire Crépère, secrétaire nationale du syndicat des enseignants de l'UNSA.
La charge de travail pour les professeurs principaux s'est beaucoup alourdie. Elle s'alourdit de manière importante parce qu'il y a beaucoup plus de conseils à faire, de rencontres avec les élèves, les familles, tout ça dans un contexte quand même assez flou pour beaucoup.
Résultat, dans le lycée d'Andrea, les nouveaux enseignants qui arrivent dans l'établissement seront fortement sollicités pour accepter d'être professeur principal pour une indemnité d'environ 100 euros par mois.
Et comment se loger à Paris ou en proche banlieue avec un salaire de prof? Si en plus on veut devenir propriétaire, c'est quasi mission impossible. Avec des prix qui dépassent désormais les 10 000 euros le mètre carré, Paris Centre est devenu inaccessible. Alors ceux qui le peuvent se reportent sur la banlieue, ce qui a fait là aussi exploser les prix. Reportage à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, où l'on frise les 40% d'augmentation depuis 5 ans, Thibault Lefebvre.
Pierre-Antoine, sa compagne Agathe et leur petite fille Marguerite habitent depuis 2 ans une maison maison dans le cœur de Saint-Ouen. 70 mètres carrés avec une terrasse payée après rénovation 550 000 euros. C'est près de 8 000 euros le mètre carré.
On est venu à Saint-Ouen parce qu'on voulait trouver une petite maison individuelle. On habitait juste à côté avant dans le 18e. On est des grands privilégiés, on l'a acheté cher. Je fais partie des bobos, une population qui achète une maison. Oui, on est des bobos.
Plus de bobos à Saint-Ouen, donc, le maire UDI assume. Depuis son élection il y a 5 ans, William Delannoy a notamment encouragé la construction de logements neufs plus chers que l'ancien.
C'était une nécessité pour équilibrer socialement notre commune, puisqu'on l'avait malheureusement ghettoisée. Donc pour moi, c'est un équilibre fiscal et social qui est nécessaire.
L'augmentation des prix s'explique aussi par l'arrivée de la ligne 14 du métro l'année prochaine. Et pourtant, Saint-Ouen séduit moins qu'avant. C'est l'avis de Jean-Christophe Reynaud. Il gère depuis plus de 15 ans une agence immobilière en plein centre-ville.
On a aujourd'hui atteint un sommet. On sent aussi chez des acquéreurs qui ont acheté à Saint-Ouen depuis pas très longtemps la réflexion sur le fait de partir en province. On peut quitter Saint-Ouen et aller vers un autre marché de report.
Et selon l'agent immobilier, 3 villes en région sont plébiscitées par les nouveaux acquéreurs, Lyon, Marseille et Nantes.
France Inter, il est 8h06, la suite du journal avec vous, Florence Paracuelos.
Les uns étaient détenus en Russie, comme le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, condamné pour terrorisme, les autres en prison en Ukraine, accusés de haute trahison. Ça pesait tout ça sur le processus de paix entre Moscou et Kiev. On parlait depuis plusieurs semaines d'un échange de prisonniers entre les deux capitales. Avec nous, l'envoyé spécial de France Inter en Russie. Bonjour Claude Brouillot.
Bonjour Florence.
Cet échange a, semble-t-il, eu lieu cette nuit, Claude.
Oui, ce sont les sites des médias indépendants Lenta.ru et Medusa qui annoncent effectivement que le transfert aurait eu lieu cette nuit. Une information confirmée côté ukrainien par les services du procureur général à Kiev. Il est question d'un groupe de 33 détenus ukrainiens, parmi lesquels donc figurerait Oleg Sentsov, le plus connu de tous, condamné en 2015 à 20 ans de prison pour une tentative d'attentat en Crimée qu'il a toujours combattu, notamment en faisant plus de 4 mois de grève de la faim l'an dernier. Il est question également des 24 marins ukrainiens arrêtés fin 2018 par le FSB dans le détroit de Kerch, à l'est de la Crimée. Si tout cela est confirmé, c'est évidemment un premier signe de détente important entre la Russie et l'Ukraine à mettre à l'actif du nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dont on sait officiellement cette fois qu'il était au téléphone hier soir avec Emmanuel Macron pendant que Angela Merkel échangeait, elle, avec Vladimir Poutine, afin de préparer la prochaine réunion à quatre sur la question du conflit dans le Donbass qui intègre justement les échanges de prisonniers entre les séparatistes pro-russes et l'armée ukrainienne.
Claude Brouillot, merci, en direct de Moscou à Hong Kong. L'arrestation cette nuit d'une figure du mouvement pour la démocratie, le jeune Joshua Wong, déjà plusieurs fois incarcéré, interpellé cette fois à la veille d'une nouvelle manifestation interdite par la police.
8h08, on connaissait l'US Air Force, Florence, la Navy, les Marines.
Et voici la Space Force, future branche de l'armée américaine et son Spacecom, nouveau commandement militaire de l'espace, lancé dès cette nuit par Donald Trump pour assurer aux États-Unis la première place dans la guerre des étoiles. À Washington, Grégory Phillips.
Dans la roseraie de la Maison Blanche, sous le regard de Donald Trump, voici le drapeau de ce commandement militaire de l'espace, l'oiseau emblème des États-Unis, le pygargue à tête blanche au milieu des étoiles et au-dessus du globe terrestre. Celui qui dirigera ce Spacecom est le général John J. Raymond, issu de l'armée de l'air. Et il devra s'assurer, dit Trump, que la domination américaine dans l'espace ne soit jamais menacée. Nos adversaires, dit le président américain, développent des armes spatiales pour cibler nos satellites qui sont si importants pour nos opérations sur les terrains de guerre et pour notre style de vie, ici, chez nous. Puis dans son discours, Donald Trump utilise le mot « boldly », hardiment, qui immédiatement rappelle aux fans de la série Star Trek cette phrase au générique. Clin d'œil à la science-fiction, mais dans la réalité, la Space Force, dirigée par ce commandement militaire, verra le jour en 2020 et deviendra la 6e branche de l'armée américaine. Selon les plans de la Maison Blanche, la force de l'espace devrait compter 15 000 soldats en 2024. La cérémonie d'hier était un premier pas, mais un jour historique, a conclu Trump. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Toujours aux États-Unis, la Floride et la Géorgie attendent et redoutent l'arrivée de Dorian, ouragan de catégorie 2 sur 5 désormais, avec des vents à 165 km/h. Il pourrait encore se renforcer. Les habitants concernés sont appelés à faire des réserves de nourriture. Donald Trump annule un voyage en Pologne pour rester aux commandes. Dorian devrait toucher les côtes lundi. Il se dirige pour l'heure vers les Bahamas. Il a fait un tabac à l'université d'été du MEDEF hier. Nicolas Sarkozy, très applaudi par les patrons. Il n'a plus d'ambitions électives. « Je ne fais plus de politique », dit-il. Tout l'inverse de Xavier Bertrand, autre invité du MEDEF hier. Le président des Hauts-de-France y a fait sa rentrée politique en forme de début de campagne, Maxence Lambrec.
Une table ronde en forme de meeting. À chaque fois qu'il saisit le micro, Xavier Bertrand paraît en campagne et cherche à se distinguer d'Emmanuel Macron en donnant des leçons.
Il y a des solutions, faut juste se réveiller, travailler les priorités et ne pas avoir peur de bousculer des conservatismes au risque parfois, pardon, d'être un peu impopulaire.
Tacle déguisé à Emmanuel Macron qui fuit en ce moment l'impopularité.
L'État aujourd'hui s'occupe de 1000 choses. Et plutôt mal.
Entre deux pics face au patron, il vante son bilan dans les Hauts-de-France.
On a mis en place un dispositif proche emploi dans la région. Deux tiers des personnes qui sont venues nous voir sont sorties du chômage. Plus de 14 000 emplois. Ça, c'est du concret. Et je pense que là, je parle pour la région. L'État doit avant tout se recentrer sur ce qui est régalien et redéfinir.
Est-ce
aujourd'hui,
que c'est transposable au niveau national?
Oui.
Un oui direct, sans ambiguïté. Xavier Bertrand tisse sa toile à l'échelle nationale avec son réseau de la manufacture. Inauguration d'une nouvelle antenne jeudi prochain en Haute-Marne. Mais tout cela n'est qu'un apéritif avant sa vraie rentrée sur France 2 dans 3 semaines. Il sera pour la première fois l'invité du prime time politique.
Une rentrée dispersée à droite chez les anciens camarades LR de Xavier Bertrand. Ça, c'est à lire sur franceinter.fr. Y aura-t-il du bitume pour les chantiers de la rentrée? La Fédération Route de France alerte sur une pénurie qui devrait retarder certains travaux. 50 à 100 000 tonnes de bitume qui vont manquer dans les 2 prochains mois parce que pour en fabriquer, il faut du pétrole et que les raffineries sont de moins en moins nombreuses en France.
8h12, se faire opérer le matin et rentrer chez soi le soir.
C'est la chirurgie ambulatoire qui a petit à petit remplacé nombre de nuitées d'hospitalisation. Elle représente désormais plus d'une opération sur 2. Véronique Julia, ces chiffres seront rendus publics aujourd'hui.
Fortement encouragée par les pouvoirs publics et favorisée par les progrès de la technologie, la chirurgie ambulatoire représente désormais plus d'une intervention sur 2. 6000 places en ambulatoire ont été créées entre 2008 et 2016. Dans le même temps, on a fermé 19 000 lits en chirurgie traditionnelle. Au palmarès des chirurgies ambulatoires les plus pratiquées, la cataracte, près d'1 million d'interventions par an, 93% en ambulatoire, mais aussi les chirurgies de la main, du poignet, les hernies et les ablations des amygdales. Les disparités régionales, encore importantes il y a 10 ans, s'estompe, mais elle perdure. On fait toujours plus d'ambulatoires en région PACA qu'en Normandie. Ça peut venir de l'âge ou de la précarité d'une population. On fera moins d'ambulatoires, par exemple, sur des personnes fragilisées ou isolées qui n'ont personne pour prendre le relais à la maison. Pour l'adresse, la direction de la statistique, il reste des marges de progression sur certains types d'interventions, des chirurgies du sein ou ORL, des ablations de la vésicule biliaire notamment, car l'objectif prévu, même si on progresse, n'est pas encore atteint. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, espère en France pour 2022 70% d'ambulatoires.
Des détonations pendant 15 jours autour du parc national des Écrins dans les Hautes-Alpes. Ce seront des tirs d'effarouchement pour faire fuir les loups qui attaquent les troupeaux. Décision prise hier soir pour répondre à la colère des éleveurs qu'on entendait ici même hier. La tâche reviendra à la brigade loup de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. On parlait tout à l'heure de la solitude du prof devant ses élèves. Que dire de la solitude de l'arbitre pendant un match de foot, 22 joueurs à gérer, et c'est sans compter les supporters du stade dont les cris et les chants ne sont plus laissés en suspens quand ils relèvent du racisme ou de l'homophobie. Et c'est l'arbitre qui, dans ces cas-là, prend la décision d'arrêter un match, comme à Nice avant-hier. S'ils ne le disent pas parce qu'ils n'ont pas le droit de parler, c'est lourd à apporter pour ces arbitres. C'est un ancien qui l'explique, l'international Tony Chaperon, qu'a rencontré Fanny Lechevestrier.
Le premier contact que j'ai eu avec ces chants, c'était arbitre enculé. Et finalement, ça choquait personne. Malheureusement, j'ai eu l'occasion de l'entendre plusieurs fois tout au long de ma carrière.
Et s'il reconnaît qu'à ses débuts, il y a 23 ans, il n'a pas pris conscience du caractère homophobe, pour lui, ces insultes n'ont toutefois rien à faire dans un stade. Mais pas facile pour autant pour un arbitre de prendre la décision d'interrompre un match. Tony Chaperon y a été confronté par 2 fois, suite à des gaz lacrymogènes et des cris racistes.
Quand on l'entend, donc ça veut dire que c'est assez puissant, c'est évidemment complexe de se dire je suspends la rencontre. Oui, c'est une décision majeure. C'est-à-dire que là, tous les regards se braquent sur vous. tabous. Parfois, on peut qualifier ça d'un excès de zèle, de quelqu'un qui veut se montrer dans la lumière.
Ou la solitude de l'arbitre qui se retrouve finalement au cœur d'un problème de société.
Qu'on vienne aujourd'hui s'attaquer au problème, je trouve que c'est une bonne chose. Est-ce que la méthode est la bonne? Ça, c'est un autre débat. Faire tout reposer sur l'arbitre, c'est dangereux.
Et déjà, de souhaiter bon courage à l'arbitre qui officiera dimanche soir lors du match Marseille-Saint-Etienne.
Il va se retrouver à Marseille dans un stade de 50 000 places, tout seul, à devoir faire la police morale. C'est pas son rôle a priori. Lui, il n'est pas là pour expliquer aux gens ce qu'il doit faire dans les tribunes.
Avant d'ajouter, si la rencontre va au bout sans interruption, ce sera un miracle.
Voilà, et une réunion aura lieu la semaine prochaine entre des associations de lutte contre l'homophobie et l'Association nationale des supporters. Sale temps pour les Français à l'US Open de New York. Chardy éliminé, Père éliminé, Simon éliminé, Alizé Cornet et Kristina Mladenovic éliminé. Il ne reste guère que Gaël Monfils et Fiona Ferro pour remonter le niveau, dernier français en lice au troisième tour. Enfin, un dernier sujet de saison, dernier sujet de rentrée, c'est l'actualité des collégiens, souvent qui entrent en sixième avec leur tout premier portable, gage de liberté pour ces enfants et d'anxiété pour les parents. Delphine Evenou.
Quelques semaines avant son entrée au collège, Inès, 11 ans, a posé un ultimatum à ses parents.
Le truc, c'était que je leur avais dit que si j'ai pas de téléphone, j'irai pas toute seule et je rentrerai pas toute seule du collège. Ça les a fait réfléchir.
Parce que la préadolescente voulait surtout être rassurée. Un coup de fil en arrivant au collège, un autre le soir à la maison. Depuis une semaine, elle a donc le précieux téléphone.
C'est pas le dernier cri, mais ça suffit.
Avec le mode d'emploi fourni par Marie, la maman.
Il y a une règle fondamentale, c'est que c'est aussi notre téléphone. En fait, on a le droit à tout moment de le regarder. Et quand elle rentrera de l'école, dès qu'on arrive, c'est le téléphone, il est débranché.
Inès, elle, voit surtout le petit espace de liberté qu'elle vient d'acquérir.
Mais je peux envoyer des SMS à mes grands-parents sans forcément demander l'autorisation à mes parents et à mes copines aussi.
De simples textos quand ses parents imaginent le pire sur les réseaux sociaux.
On entend quand même vachement de trucs sur les réseaux sociaux, de gamins qui sont hyper malmenés, harcelés. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent basculer rapidement quand on perd un peu le contrôle.
Mais Inès, c'est du genre sérieuse.
J'écoute et des fois je suis craintive, donc ce qui peut m'attirer des ennuis, je le fais pas.
Ses parents attendent de voir à l'usage.
Il faut que nous, peut-être, on se réajuste une fois qu'on voit qu'il y a une confiance qui s'instaure, peut-être aussi, peut-être lâcher.
Mais s'il y a une règle sur laquelle il ne faut rien lâcher, préviennent les pédopsychiatres, c'est l'interdiction du portable à table et au lit.
Oui. Ça, c'est pas c'est, vous, Nicolas. Oui,
c'est pour les parents, ah. Ça, l'interdiction du portable à table et au lit. Merci, Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon, avec une nouvelle hausse des températures.
Et oui, et même s'il fait frais encore ce matin sur la moitié nord, le mercure va de nouveau s'envoler cet après-midi. Et pas que dans le sud, dans le centre et le nord-est, comme vers Bourges et Nevers, on a 33 degrés. 31 à Nancy, il fera aussi chaud à Tours, Aurillac et Ajaccio avec 30. Il fera 29 à Nantes, 28 à Paris, comme à Biarritz et à La Rochelle, comptez 26 à Lille, 23 sur les planches normandes de la côte de Nacre et de la côte d'Albâtre. Autour de la Grande Bleue, on sera au-dessus des 30 degrés, comptez 34 à Perpignan et Castelnaudary, 33 à Marseille, Mont-de-Marsan, jusqu'à 37 à Nîmes et Avignon. Côté ciel, à part des orages qui vont éclater en montagne, c'est du beau temps, même si le ciel sera légèrement voilé du sud-ouest au nord-est. Attention aussi quand même, comme les jours précédents, sur les reliefs des Pyrénées, du Massif central, des Vosges, aux Alpes et le relief Corse.
Et le week-end s'annonce contrasté.
Oui, avec demain Nicolas, Mercure qui sera 10 degrés au-dessus des normales de saison pour accompagner le dernier jour de l'été météorologique. On attend 30 pour la braderie de Lille, 31 à Paris, 37 en Provence. Alors que dimanche, une perturbation va vouloir rentrer sans trop de succès, mais donnant quelques gouttes, mais pas plus, de la Bretagne au Cotentin, apportant un air bien plus frais. On va perdre une dizaine de degrés, 16 à Brest et 21 à Paris, normal pour la saison.
Merci Marie-Pierre Planchon.